Bonjour Evelyne, aujourd'hui on va parler transformation numérique, mais appliquée à un secteur qu'on imagine parfois un peu figé. Hein.
La construction, le BTP.
Oui, bonjour. Et plus précisément, on va regarder de près comment l'Europe tente d'introduire la modélisation des informations de la construction, le fameux BIM, dans ses marchés publics. C'est un gros enjeu.
Tout à fait. Pour ça, on a une source clé, le manuel du groupe de travail BIM de l'Union européenne, un document soutenu par la Commission.
Notre mission, si on peut dire, comprendre pourquoi une approche commune est si importante pour eux et quelles sont les recommandations pour les acteurs publics. Alors, on décortique ça ?
Allons-y.
D'abord, juste pour être clair, le BIM, ce n'est pas simplement un logiciel de dessin 3D, hein ?
Ah non, pas du tout. C'est bien plus large. C'est vraiment la numérisation du processus de construction. On combine la modélisation 3D, oui, mais surtout avec une masse d'informations attachées.
Des infos sur tout le cycle de vie, c'est ça ?
De la conception à la maintenance.
Exactement.
Le but, c'est d'améliorer la collaboration, la prise de décision, en ayant une source d'informations unique et fiable pour tous les intervenants.
Et derrière ça, il y a un enjeu économique. Colossal, j'imagine.
Ah oui, colossal. Les études parlent de 15 à 25% d'économies potentielles sur le marché mondial des infrastructures d'ici 2025.
15 à 25%?
Oui. Et pour l'Europe, dont le marché pèse bon en malin autour de 1300 milliards d'euros, même 10% d'économies, ça ferait 130 milliards. C'est considérable.
C'est énorme.
La gestion des ressources, le vieillissement de nos infrastructures, le numérique peut aider là-dessus.
Alors, ce qui est vraiment intéressant dans l'approche européenne, c'est le rôle moteur donné au secteur public. Pourquoi est-ce que c'est si crucial que l'impulsion vienne d'en haut, hein, des acheteurs publics ?
C'est une excellente remarque. Le secteur de la construction, il est très fragmenté, très fragmenté. Énormément de PME.
Oui.
Sans une demande claire, forte et coordonnée des grands donneurs d'ordre public, l'adoption du BIM risque d'être lente, inégale. Chacun bricole dans son coin, ça coûte cher et c'est pas efficace.
Donc le public utilise les marchés publics comme un levier.
Exactement. Pour stimuler l'innovation, bien sûr, mais aussi pour optimiser l'argent public, avoir un meilleur rapport qualité-prix. Et ça passe par cette collaboration publique-privée pour construire un marché numérique qui soit compétitif, mais aussi ouvert.
D'où l'importance de ce groupe de travail BIM de l'UE et de ce manuel. L'idée, c'est d'éviter que chaque pays invente sa propre norme, son propre dialecte BIM, ce qui créerait des barrières.
Précisément. Imaginez le casse-tête si les entreprises devaient s'adapter à 27 systèmes différents. Le but du manuel, c'est donc de fournir un point de référence stratégique commun.
Stratégique, pas technique.
Non, pas un manuel technique pour les ingénieurs. C'est vraiment pour les décideurs, les gestionneurs d'actifs publics. Harmoniser la compréhension, le vocabulaire, avoir une vision commune.
Et cette vision commune, elle repose sur quoi ? J'ai vu qu'on parlait beaucoup de principes universels, de normes ouvertes, comme l'IFC. Qu'est-ce que ça signifie concrètement ?
Alors l'IFC, Industry Foundation Class, c'est un format de fichier ouvert, non propriétaire. C'est un peu comme le PDF pour les documents, mais pour les maquettes numériques du bâtiment.
Ah, d'accord.
Ça veut dire que peu importe le logiciel utilisé par l'architecte, l'ingénieur ou l'entreprise, ils peuvent échanger des données fiables. Le modèle peut passer d'un logiciel à l'autre sans perte d'informations majeures.
Et ça change tout pour la concurrence ?
Ça change tout. Ça garantit une concurrence ouverte parce qu'on n'est pas lié à un seul éditeur de logiciels. Ça facilite aussi le travail entre pays européens. Et surtout, ça aide les PME qui n'ont pas forcément les moyens d'acheter toutes les licences logicielles du marché, on évite la dépendance.
Logique. Et pour que cet échange fonctionne bien, il y a aussi cette notion d'environnement de données communs, l'EDC, ou CDE en anglais. C'est une sorte de plateforme centrale.
C'est un peu ça, oui. L'EDC, c'est l'espace numérique sécurisé où toutes les informations du projet sont stockées, gérées et partagées. C'est la source unique de vérité pour le projet. Fini les échanges d'emails avec 50 versions de plans.
On voit le gain de temps et la réduction des erreurs. D'accord. Donc, le manuel propose des cadres assez généraux. Un pour la stratégie publique.
Oui, avec des piliers comme le leadership, la communication, le cadre collaboratif, le développement des compétences.
Et un autre pour définir la performance BIM elle-même. Politique, technique, processus, personne.
Tout à fait. Et pour la mise en œuvre concrète, il insiste sur une approche progressive. Il faut bien définir ses besoins en information, c'est le IR.
Les exigences d'information.
Voilà, il faut un plan d'exécution, le BFP, pour savoir qui fait quoi et comment. Et puis bien sûr, évaluer les capacités des fournisseurs, adapter les contrats.
Et s'inspirer des projets pilotes, j'imagine. Le Royaume-Uni, l'Estonie, ils ont servi un peu de laboratoire ?
Absolument. Les projets pilotes sont essentiels pour apprendre, ajuster avant de généraliser. Chaque pays avance à son rythme, mais avec ce cadre commun, l'idée est de converger.
Bon, si on essaye de résumer tout ça, le BIM, c'est pas juste un outil, c'est une vraie transformation pour le secteur de la construction en Europe. Et cette transformation est encouragée, pilotée par le secteur public.
Oui, via une approche qui se veut coordonnée, basée sur des standards ouverts pour plus d'efficacité, de transparence et, au final, de compétitivité pour l'industrie européenne.
Donc l'objectif est clair.
Il l'est. Et pour laisser une dernière pensée en suspens, au-delà des économies directes, qui sont déjà importantes, on pourrait se demander comment cette adoption généralisée du BIM, avec la traçabilité et la transparence qu'elle apporte, pourrait transformer la manière dont on contrôle et on rend compte de l'utilisation de l'argent public dans les très grands projets d'infrastructure.
Une question de redevabilité accrue, finalement.
Exactement. Ça ouvre des perspectives assez fascinantes sur la gouvernance même de ces projets.